bienvenue dans Europe 1 Soir Week-end, 60 minutes d'infos et de débats. Il est 18h sur Europe 1. Et au sommaire ce soir, bien sûr, les conséquences et les suites de l'attaque de l'Iran sur Israël la nuit dernière. 300 drones, des missiles balistiques et des missiles de croisière lancés contre l'État hébreu qui a pu en détruire 99%. La tension est au plus haut. Réunion du cabinet de guerre restreint en Israël, du G7, des ministres des Affaires étrangères européens, du Conseil de sécurité de l'ONU. Tous appellent à la désescalade et Téhéran justifie le droit de se défendre. Dans un instant, le récit de cette escalade et la situation à Tel Aviv avec les correspondants d'Europe 1, les spécialistes Frédéric Ancel et Qatar Abou Diab sur le rôle d'Israël et sur celui de l'Iran. 18h15 en direct en studio ici à Europe 1, l'ambassadrice d'Israël en France, Alona Fischer-Kam, et à 18h30 une partie du club politique d'Europe 1 aussi consacrée à cette question, d'autant que la France est impliquée diplomatiquement dans ce processus. Frédéric Dabi de l'IFOP et William T du Millénaire. La météo, la tendance. Bonsoir Anthony Kaczmarek.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Un temps beaucoup plus frais pour demain. Nous allons quasiment partout repasser en dessous de 20 degrés avec le retour de la pluie, des averses et d'un fort coup de vent sur le nord du pays. Trois départements sont en vigilance orange pour ces rafales de vent, le nord, le Pas-de-Calais et la Somme.
Météo complète dans un petit quart d'heure. Cette action de représailles de l'Iran, on l'attendait, on la redoutait plus précisément. Le régime de Téhéran avait promis une vengeance après l'attaque qui avait visé le consulat iranien à Damas le 1er avril dernier, attaque attribuée à Israël et qui avait conduit à la mort de 16 personnes, dont 7 personnalités des gardiens de la Révolution et parmi eux, 2 commandants principaux. Cette nuit donc, Téhéran a usé d'une force armée sans précédent contre l'État hébreu. Bonsoir Caroline Baudry.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Les premières frappes ont eu lieu aux environs de minuit.
Oui, plus de 300 drones tueurs, missiles balistiques et missiles croisières lancés par l'Iran s'approchent alors d'Israël. Les sirènes retentissent. Le ciel est transpercé par une multitude de boules de feu. Le dôme de fer entre en action. Les roquettes israéliennes fusent pour détruire les projectiles ennemis. Des dizaines d'avions de l'armée lacèrent le ciel, aidés par les chasseurs américains et britanniques. 99% des drones et missiles sont interceptés, annonce l'armée israélienne qui déclare avoir déjoué l'attaque. Certains missiles tombent toutefois en territoire israélien, notamment sur une base militaire précisément visée par l'Iran, celle qui a servi à mener la frappe du 1er avril sur le consulat iranien en Syrie. Bilan humain, un blessé grave, une petite fille et 31 blessés légers dans leur course à la recherche d'un abri.
Merci Caroline Baudry. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Géopoliticien, auteur notamment de les 100 mots de la guerre aux éditions PUF. 99% de ces bombes ont été arrêtées, certes, par le dôme de protection et l'aide américaine. Mais question simple, est-ce qu'Israël est en danger ?
Ah mais bien sûr qu'Israël est en danger, parce qu'imaginez que l'Iran ait utilisé non pas 300 projectiles, mais 3000, sachant qu'il en possède vraisemblablement plusieurs dizaines de milliers. Et encore, on est là dans du conventionnel, parce que le programme nucléaire iranien, qui lui vaut d'ailleurs d'être soumis à des sanctions internationales depuis le 1er janvier 2007, ce programme nucléaire, il se poursuit. Donc oui, fondamentalement, Israël est en danger, j'ajoute un dernier point, depuis l'avènement à Téhéran de la République islamique, très officiellement, hein, les Iraniens ne s'en cachent pas, et pour cause, ils considèrent que Israël doit être détruit. Bon, donc effectivement, Israël est en danger. Oui.
On s'attend indéniablement à une réplique des Israéliens, ça a commencé d'ailleurs au sud du Liban, mais si cela se produit, est-ce qu'on ne rentre pas dans l'engrenage d'un conflit régional qui pourrait déborder, comme le redoute d'ailleurs Emmanuel Macron dans un tweet ce matin ?
Alors, je ne le crois pas, dans la mesure où les Iraniens, enfin la République islamique d'Iran, est dirigée par des fanatiques, mais pas par des abrutis. Ce sont des gens qui connaissent très bien les rapports de force. D'ailleurs, ils en ont joué, puisqu'on l'a vu il y a un instant, ils n'ont envoyé, entre guillemets, que 300 projectiles. Donc, c'est beaucoup dans l'absolu, mais au regard de ce dont ils disposent, c'est encore assez faible. Et que, jusqu'à présent en tout cas, ils faisaient faire la guerre contre Israël par les autres, hein, notamment par le Hezbollah et les Houthis. Donc, ils ont bien pris soin d'envoyer des signaux à Israël et aux États-Unis, y compris à travers un message envoyé à l'ONU en pleine nuit, indiquant que, bah, voilà, enfin, ils étaient quittes. Bon. Alors après, le problème, c'est que pour Israël, il n'y a absolument pas du tout de possibilité de ne pas réagir, pour des raisons très claires. La première, c'est la suivante, recouvrer une crédibilité dissuasive.
On joue sa survie. Israël joue sa survie en ripostant.
C'est ça. En tout cas, en défendant sa crédibilité, oui, c'est d'autant plus vrai que cette crédibilité dissuasive, elle a été écornée lors du grand pogrom du Hamas le 7 octobre dernier. Donc, il n'est pas imaginable qu'Israël ne riposte pas.
Israël, donc, sur plusieurs fronts, le Hamas toujours, faut pas l'oublier, le Hezbollah, maintenant l'Iran. Qui demain, qui après-demain, Frédéric Ancel?
C'est bien le problème d'Israël. C'est d'être, alors, sinon totalement isolé, parce qu'on a bien vu que les États arabes observent une neutralité bienveillante, en fait, avec Israël, tellement ils ont peur de l'expansionnisme pan-chiite iranien. Néanmoins, si Israël baisse la garde, autrement dit, si, je reprends mon expression, sa crédibilité dissuasive devait être très très fortement mise à mal, eh bien, le risque ne serait pas seulement tactique ou technique, mais existentiel. Donc moi, je vous dirais que pour l'instant, tous ceux que vous venez de citer avec raison sont au fond les seuls véritables ennemis durs d'Israël. Alors, à ne pas les mettre sur le même piédestal, parce que l'Iran est potentiellement beaucoup plus dangereux que les Houthis, qui finalement sont quand même surtout des va-nu-pieds. Et le Hezbollah, là-dedans, constitue, on va dire, un péril sérieux intermédiaire.
Dernière question, Frédéric Ancel. Quelle position Iketnung pour Benjamin Netanyahou? Peut-il se racheter, j'allais dire, des fautes du passé, notamment du manque de vigilance le 7 octobre?
La réponse est non, tellement le cataclysme a été important, tellement c'est de nature différente. C'est-à-dire que, je le dis en deux mots, aujourd'hui, les Israéliens, dans leur totalité, je crois, pouvoir l'affirmer, je les connais bien, évidemment, son dernier Netanyahou face à un État impérialiste cruel qui n'a jamais reconnu Israël et qui le frappe directement. Bon, là, si vous voulez, il n'y a pas de dimension morale, il n'y a pas de dimension identitaire. Alors qu'avec le coup de force et le pogrom du Hamas, mais également la question des territoires palestiniens et de manière générale la question, oui ou non, des deux États, là, on est dans autre chose. C'est la raison pour laquelle je pense que pendant quelques jours, quelques semaines, Netanyahou va bénéficier d'un semi-état de grâce, en quelque sorte. Les gens seront obligés de le suivre, évidemment, face à l'Iran, et ils le feront volontiers. Mais dès lors que cette crise, que cette facette de la crise moyen-orientale se sera apaisée, on en reviendra à une hostilité de la population très, très forte contre lui.
Merci de ces précisions, Frédéric Ancel. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, direction Israël, justement, alors qu'il est 18h07 sur Europe 1, où la vie continue. Alon a 50 ans, il était israélien, il vit à Tel Aviv. Il était minuit passé lorsqu'il a vu les drones et les missiles iraniens percer le ciel.
On a entendu du bruit dans le ciel, surtout dans la zone de Jérusalem et dans le sud d'Israël. C'était comme une guerre des étoiles, une attaque massive. Le ciel brillait, nos roquettes frappaient les drones et les missiles avec le dôme de fer. Nos avions étaient là partout. C'est très différent d'une attaque de roquettes de Gaza. Les roquettes de Gaza sont plus proches, alors que là, on a eu le temps de s'y préparer. En tout, ça a duré un peu moins d'une heure. Aujourd'hui, on essaye de retrouver une situation normale. Mais c'est très très dur d'être attaqué et de rester calme. Alors beaucoup de gens restent chez eux aujourd'hui.
Voilà donc pour ce témoignage d'Alon à Tel Aviv. Bonsoir Ariane Ménage.
Bonsoir à tous.
Correspondante d'Europe 1 en Israël. Comment vit-on après les attaques de la nuit dernière ?
On sent les Israéliens partagés aujourd'hui entre soulagement et anxiété. Soulagement face à l'efficacité de la défense antiaérienne israélienne. C'était aujourd'hui le sujet de toutes les discussions. Malgré un très grand nombre de tirs, les drones et les missiles iraniens n'ont provoqué que des dégâts mineurs. Et puis anxiété en ce qui concerne les jours à venir. Les craintes d'une véritable guerre directe entre Israël et l'Iran ne sont pas écartées. Et la population israélienne s'y prépare. D'ailleurs, l'armée affirme rester en état d'alerte. À Tel Aviv, Benjamin Netanyahou réunit à nouveau son cabinet de guerre cet après-midi. Il est question de l'éventuelle riposte israélienne contre Téhéran. Le Premier ministre israélien avait hier soir promis des représailles. L'allié américain tente, lui, de faire pression pour l'en dissuader.
Merci Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Voyons maintenant ce qui se passe en Iran. Attendez, la foule en délire à Téhéran pour les autorités. L'attaque d'hier a atteint tous ses objectifs, notamment une base de l'armée de l'air israélienne dans le désert du Negev, que Tzal ne mentionne en tout cas pas du tout. Bonsoir Qatar Abou Diab.
Bonsoir.
Géopolitologue, spécialiste du monde arabe, je le disais, cette riposte au 1er avril de Téhéran, on l'attendait, on la redoutait. Elle était donc quoi, nécessaire pour les autorités iraniennes vis-à-vis de sa population ?
Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est une histoire d'opinion publique iranienne, mais c'est aussi une nécessité pour le régime lui-même, pour le guide suprême qui a menacé des fois, après l'attaque du consulat iranien à Damas, de riposter. Et pour cela, l'Iran qui ne riposte pas, malgré des attaques par procuration, malgré des attaques sécuritaires israéliennes contre plusieurs personnalités à l'intérieur de l'Iran et à l'extérieur, cette fois, pour ne pas perdre la face, le régime iranien a fait cette preuve de force où ces spectacles hier d'une attaque contre Israël. Mais le fait qu'on a informé les Américains et les pays voisins 72 heures avant, ça signifie qu'il y avait quand même quelque chose préparé pour une attaque limitée. Et le fait que les forces américaines, comme les autres pays occidentaux présents dans la zone, ont contribué à la défense de l'État d'Israël, tout ça entre dans la perspective d'empêcher Israël de riposter à l'Iran pour éviter l'escalade générale.
Oui, mais est-ce que l'Iran s'arrête là ? Vous parliez de spectacle de mise en garde 72 heures avant. Est-ce qu'il y a une étape suivante ? Est-ce qu'il y a une étape nucléaire, tout simplement ?
Non, car je pense qu'il y a toujours les proxys de l'Iran. Mmh. Les proxys de l'Iran qui continuent à gêner la circulation dans la mer Rouge et ailleurs avec le Houthi. Il y a le Hezbollah qui est le plus grand proxy important de l'Iran. Il y a les milices irakiennes, Al-Hashd al-Shaabi, mobilisation populaire. Il y a donc ces éléments de l'Iran qui continuent avec le Hamas et le djihad à l'intérieur de faire la guerre. Et là, pour la première fois, l'Iran fait quelque chose d'une façon directe, même si ce n'est pas stratégique. On peut parler d'une gesticulation stratégique hier et pas d'une attaque stratégique iranienne.
Donc, ça sert à quoi cette attaque ? Vous avez dit que c'était pour la légitimité du guide suprême. Est-ce qu'à l'intérieur du pouvoir iranien, il y a des divisions ? Il y a certains qui disent « si, il faut attaquer plus » et d'autres qui disent « pas du tout, on est là juste dans une démonstration de force ».
Moi, je ne crois pas aux divisions au sein du régime iranien. C'est un régime monolithique et c'est le guide suprême qui décide. Et après l'élection d'Ibrahim Raisi, qui est extrémiste aussi, la voie de réforme, même dans les dernières élections iraniennes, a été matée. Le peuple iranien a été maté. On sait bien l'histoire de Mahsa Amini et ses suites. Et pour cela, c'est une décision des autorités iraniennes. Ce qui compte pour l'Iran, c'est le leadership régional. L'Iran veut s'imposer comme une grande force régionale. Et veut en même temps, c'est ça la réponse à la question nucléaire, veut qu'on le laisse tranquille pour finir son programme nucléaire. Mmh. Et pour cela, c'est le jeu caché de l'Iran. C'est-à-dire, les priorités pour l'Iran, continuer le programme nucléaire pour devenir une puissance nucléaire, comme l'Inde, le Pakistan et les autres, et Israël, la deuxième priorité pour l'Iran, c'est son projet impérial, la protection de ses proxys, le Hezbollah, le régime syrien.
Justement,
l'Irak et les Yémen.
Vous avez parlé des proxys, il y a un pays dont on parle peu et pourtant l'Iran est très lié, c'est le Qatar. Quelle est la stratégie, quelle est la position du Qatar après cette attaque d'Israël cette nuit ?
La position du Qatar, c'est une position ambiguë. Les médias les plus importants du Qatar, qui a fait la publicité du Qatar à travers le monde, soutiennent l'Iran à fond. Les autorités iraniennes essayent de se montrer modérées, mais les Qatar aussi, il faut comprendre les Qatar. Les Qatar partagent un grand champ de gaz avec l'Iran. Mm-hmm. Les Qatar se situent aux côtés de l'Iran. Les Qatar essayent de se protéger en accueillant la grande base américaine de CENTCOM dans la région et en même temps à avoir des liens très forts avec l'Iran et la Turquie à la fois. Donc, les Qatar jouent un jeu de médiateur pour Israël aussi, mais le Qatar, c'est pas un pays qui a le poids, mais les autres pays qui ont le poids dans la région ont été inquiets. Mais le pays le plus important qui est aux côtés d'Israël, qui pourrait être menacé par les Iraniens et il y aura des tentatives de déstabilisation, c'est la Jordanie qui a contribué hier à faire échec à la à l'offensive iranienne.
Merci beaucoup de ces précisions. Qatar Abou Diab, géopolitologue et spécialiste du monde arabe. 18h14 sur Europe 1. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, le père des deux enfants retrouvés morts dans l'Essonne a été mis en examen et écroué. Cet homme de 34 ans est passé aux aveux dans la nuit de jeudi à vendredi. Le procureur a indiqué qu'il avait du mal à expliquer son terrible geste, mais que le contexte de la séparation s'était avéré conflictuel. Les deux corps des enfants poignardés par un couteau de cuisine, une fillette de 3 ans et un petit garçon de 20 mois avait été abandonné dans un champ de Forges-les-Bains. Un sondage CSA pour Europe 1, CNews et LJDD, 59% des Français sont favorables à l'armement des policiers municipaux. Rassemblement à Romans-sur-Isère ce soir à 18h30 dans le quartier de la Monnaie, 5 jours après la mort de Zakaria, 15 ans, tué à coups de couteau pour avoir voulu s'interposer dans une bagarre. 4 hommes ont été mis en examen et incarcérés. Le sport avec le foot est la 29e journée de Ligue 1. Le Havre a perdu face à Nantes 1-0, un partout entre Clermont et Montpellier. Et ce soir à 20h45, l'OL contre Brest en rugby. Les Françaises affrontaient les Italiennes aux Six Nations ce dimanche et ça s'est très bien passé, 38-15. Le tennis avec le grec Stefanos Tsitsipas qui remporte la finale du Masters 1000 de Monte Carlo face au Norvégien Casper Ruud. Le grec qui remporte pour la 13e fois ce tournoi. Troisième fois, mais j'aime tellement la Grèce que j'ai été tellement petit. Troisième fois ce tournoi, mon cher Christopher.
Oui Pierre, finale expéditive hein, en un peu plus d'1h30 de jeu, victoire en 2-7, 6-1, 6-4. Stefano Tsitsipas, spécialiste de la terre battue, avait un avantage conséquent. Il connaissait la recette pour s'imposer à Monaco, lui qui a déjà été sacré en 2021, en 2022. Il rejoint ainsi la légende Björn Borg avec 3 sacres sur le rocher, le grec qui savoure après sa victoire.
Ça a été très difficile d'être de retour et de gagner le tournoi. C'est tout simplement incroyable. La troisième est encore plus spéciale que la première ou la deuxième fois, donc c'est purement incroyable pour moi d'avoir décroché cette victoire aujourd'hui. C'était angoissant. Je voulais vraiment la troisième, je l'ai donc eue et je suis extrêmement heureux aujourd'hui.
Auteur d'un match maîtrisé, Tsitsipas a également été aidé, il faut le dire, par le faible niveau de Casper Ruud dans l'impossibilité de saisir les opportunités, à l'image de cette statistique. 8 balles de break, aucune de concrétisée. En tout cas, Stefano Tsitsipas en pleine renaissance cette semaine sur la terre battue de Monte Carlo, après avoir battu notamment l'un des favoris, le numéro 2 mondial, l'Italien Yannick Sinner. Le grec fait son retour parmi les 10 meilleurs mondiaux.
Merci Christopher Filoc, le Masters 1000 de Monte Carlo qui trace une ligne vers Roland-Garros, dont Europe 1 et la radio officielle, bien entendu. Météo, Anthony, un temps agité demain avec 3 départements en vigilance orange.
Oui, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme pour de fortes rafales de vent, 100 à 110 km/h, y compris dans les terres. Des rafales attendues au passage, une perturbation pluvieuse demain entre 11h et 18h, mais ces pluies seront déjà présentes en tout début de matinée près des côtes de la Manche. Et ces pluies vont traverser une bonne partie de la moitié nord du pays d'ici à demain soir, en tout cas le nord de la Loire. Jusqu'au nord-est, il y aura aussi des averses orageuses demain. Dans le sud-ouest, entre les Pyrénées et le Massif central, tout comme entre l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes, partout ailleurs, plutôt des éclaircies, même si les nuages vont s'imposer dans l'après-midi entre le Poitou-Charentes et la Bourgogne. Puis le vent va se mettre à souffler aussi près de la Méditerranée. Les températures encore relativement douces au réveil, entre 6 et 15 degrés. Mais dans l'après-midi, plus que 12 à 20 degrés seulement. Et encore 21 à 26, certes, dans le sud-est, mais seulement 18 à Bordeaux et Strasbourg. 15 degrés à Paris et Metz. Et 12 pour Lille et Rouen.
Merci, mon cher Anthony. Dans un instant, retour sur la situation au Proche-Orient. Ce nouvel épisode va-t-il provoquer une régionalisation, même une mondialisation du conflit? Quel danger pour Israël? Quelle perspective, notamment pour le sort des 133 otages? Alona Fischer-Kam, ambassadrice d'Israël, est avec nous en direct sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gabriel Attal.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Une voiture volée toutes les 4 minutes en France. Vous êtes 140 000 à en avoir été victime l'an dernier.
Et puis 800 personnes écartées de l'organisation des Jeux Olympiques, annonce Gérald Darmanin. Parmi elles, 15 étaient fichées S.
On l'a traité de couffard. Couffard, ça veut dire mécréante. Je vois jusqu'à où cette élève est allée. Elle a prémédité peut-être le meurtre de ma fille en fait.
Quand on touche un enseignant, qu'on touche un élu, qu'on touche un policier, on touche à la République et on abîme les Français.
6 mois pile que la bataille de Gaza a été délibérément engagée par le Hamas et toujours pas de lumière au bout des tunnels.
On en apprend des choses sur Europe 1. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Quand vous avez un brique de glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous l'avez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, elles sont à 2,19€.
Les fraises Gariguettes ?
Eh oui, dès demain, elles sont à 2,19€ la barquette de 250 grammes.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Toi, ramène ta fraise, t'es mal embarqué, hein.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 8,76€ le kilo, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr. Renault.
Quand on est un pro, on doit pouvoir saisir toutes les opportunités. Avec des volumes de chargement allant de 3,3 à 22 mètres cubes, les utilitaires Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master répondent à tous vos besoins. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires Renault en version thermique et e-tech électrique, prête à partir. Pendant les jours Pro Plus du 2 au 18 avril, profitez de 3 mois de loyer différé.
Volume selon version, selon stock disponible. Location longue durée permettant au locataire de choisir 1, 2 ou 3 mois à 0 euros en début de contrat. Si accordiaque location. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Europe 1 soir week-end, Pierre de Villeneuve.
18h21, l'interview politique sur Europe 1 avec nous quelques heures seulement après l'attaque massive de l'Iran sur Israël, l'ambassadrice d'Israël en France. Bonsoir Alona Fischer-Kam.
Bonsoir.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce soir. À l'instant, on apprend qu'une frappe israélienne a visé un bâtiment du Hezbollah dans l'est du Liban, dans la plaine de la Beka. C'est quelques heures seulement après l'attaque de l'Iran. Qu'est-ce qui se passe ? Le conflit continue ? C'est une riposte à la riposte de la riposte ?
C'est le conflit qui continue. Le conflit n'a pas commencé avec l'attaque de l'Iran contre Israël hier. Malheureusement, c'est un conflit qui dure depuis des décennies et que le Hezbollah joue un rôle très très négatif, étant un proxy de l'Iran et qui représente les intérêts de l'Iran et sur les frontières avec Israël.
Mais quel est le but pour Israël ? C'est l'éradication du Hezbollah ? Parce qu'il y a déjà un but de Benjamin Netanyahou, c'est d'éradiquer totalement le Hamas. Est-ce qu'il y a aussi un but d'éradiquer totalement le Hezbollah ?
Non, pas du tout. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait différent.
Expliquez-nous.
Depuis le 7 octobre, nous avons eu des factions au nord, entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Au début, c'était contre l'armée. Maintenant, les attaques sont devenues de plus en plus contre des civils. Et il y a plus de 100 000 civils israéliens du nord d'Israël qui ont été déplacés depuis le 7 octobre et qui ne peuvent pas retourner chez eux parce que le Hezbollah est là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas ? Sur la frontière avec Israël. Or, dans les résolutions, suite à la résolution des Nations Unies et concernant Hezbollah, le Hezbollah aurait dû reculer, être au nord de la rivière de Litani. Malheureusement, cette résolution n'a jamais été appliquée par le Hezbollah. Et avec le temps, Hezbollah est revenu et se trouve aussi sur la frontière avec Israël. Maintenant, cela veut dire qu'il y a des maisons qui se trouvent juste sur la frontière et qui voient de leurs fenêtres des gens de Hezbollah. Donc jusqu'au 7 octobre, c'était dans la conscience, mais bon, peut-être les gens ne se sentaient pas tellement menacés. Mais après le 7 octobre, étant donné la vulnérabilité de la société, étant donné la vulnérabilité de la population qui vit sur les frontières, tout a changé. Donc maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est changer cette réalité. Cela ne veut pas dire éradiquer le Hezbollah. Ça ne veut pas même dire avoir une escalade ou un conflit militaire, parce qu'il y a une plateforme diplomatique. Mmh. Il y a une résolution des Nations Unies qu'il faut tout d'abord appliquer. Donc on va tout essayer, que ce soit à travers des négociations diplomatiques. Or, nous laissons la porte ouverte et nous sommes prêtes à tout scénario.
On a vu que le cabinet de guerre israélien a pris place dans l'après-midi. La difficulté, c'est de riposter sans régionaliser le conflit. Vous avez parlé d'intérêts diplomatiques à l'instant. Et puis, on a parlé avec Qatar Abou Diab et aussi Frédéric Ancel, à l'instant dans le journal, du fait qu'il n'y aura sûrement pas de régionalisation parce que l'Iran n'a pas intérêt à faire ça. Est-ce que c'est votre opinion également ?
Vous savez, pendant des années, il y avait un concept en Israël que le Hamas n'a pas l'intérêt d'embraser la région. Or, nous avons vu ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, compter sur la bonne volonté de l'Iran, je serais très, très, c'est très méfiant. Je le ferai
très
pas.
Très négatif, très pessimiste là-dessus.
Je le ferai pas. Donc, il faut laisser la porte ouverte. Et côté Iran, l'Iran, ce qui est dangereux avec l'Iran, qu'il y a ici une combinaison de un mélange de capacités et de volontés. Et ils l'ont dit à maintes reprises, leur idée est de détruire l'État d'Israël. Ils n'appellent pas Israël par son nom, ils appellent l'entité sioniste, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'existence d'Israël en tant qu'un État juif et au Moyen-Orient. Donc tout d'abord, ce n'est même pas la stratégie de l'Iran, la destruction d'Israël, c'est la raison d'être. Je parle du régime, je ne parle pas de l'État, du régime. Mais, du régime. C'est vraiment détruire l'État d'Israël, donc ça, c'est le côté de volonté, disons. Oui. Et puis, il y a le côté, bien sûr, des capacités de l'Iran. Et ça, ce qu'on a vu hier, c'est un petit goût.
C'est ce qu'on a
de
dit
ce qu'ils peuvent,
à l'instant
de ce
dans
qu'ils
le journal, c'est-à-dire
oui.
qu'ils ont aussi l'arme nucléaire.
Ils ont une capacité de nuisance et qui est très, très importante.
Oui.
Et cela dit, il y a beaucoup de mesures qu'on peut prendre. On peut réimposer des sanctions, par exemple. Et on peut essayer de traiter un sujet qui n'a pas été traité jusqu'à maintenant. Je parle de la communauté internationale. C'est la question des missiles. Parce qu'on a parlé des sanctions sur la bombe atomique, sur la bombe nucléaire, des capacités nucléaires. Mais on n'a jamais parlé des sanctions sur toute l'industrie, la production des missiles venant de l'Iran. Donc là aussi, c'est un danger. Ce sont des missiles aussi utilisés par la Russie contre l'Ukraine. Donc on voit ici une sorte de capacité de nuisance et qui est très très importante. Donc même...
vous souhaitez, au nom d'Israël, des sanctions contre l'Iran, que ce soit sur son programme du nucléaire ou d'autres sanctions
absolument.
Que vous énumérez. Mais est-ce que ça empêche une riposte sur le terrain d'Israël, puisque encore une fois, le cabinet de guerre est réuni en ce moment autour de Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent ? Est-ce qu'il va y avoir une riposte ? Parce que de la même façon qu'il y a eu l'attaque d'Iran, on l'a compris, pour la légitimité du guide suprême, est-ce qu'il faut aussi avoir une riposte israélienne pour asseoir la légitimité israélienne ?
Bon, vous avez vu que jusqu'à maintenant, les dirigeants politiques et militaires d'Israël n'ont rien dit sur cette question de riposte, de possible riposte. Oui, on a dit que l'Iran va payer le prix. Oui, on a dit que celui qui fait mal, qui fera mal à Israël, et Israël lui fera mal.
Vous n'avez d'ailleurs pas revendiqué l'attaque de Damas du 1er avril.
Oui, effectivement.
Ni confirmé, ni éradiqué.
Ça a été attribué à Israël, mais Israël ne l'a jamais revendiqué.
Pourquoi ?
Ça, c'est toujours la politique israélienne, une politique d'ambigu, mais si, j'aimerais bien faire une toute petite précision.
Vous assumez l'ambiguïté d'Israël là-dessus ?
Ah oui, absolument.
Très bien. Vous vouliez faire une précision, pardon.
Eh oui, toute une petite précision, parce qu'on dit souvent, et je crois qu'ici sur le plateau aussi, on a dit que c'est une attaque attribuée à Israël contre le consulat. Ce n'était pas une attaque contre le consulat, c'était une attaque contre des dirigeants militaires du Hezbollah, de terroristes, surtout des commandants de la force Quds au Liban et la Syrie, qui se sont réunis dans un bâtiment qui n'est pas le bâtiment du consulat, c'est le bâtiment tout près du consulat.
Donc vous voulez dire que le consulat est un dommage collatéral ?
Tout d'abord.
Il y a eu 16 morts quand même.
Oui, mais c'était des terroristes qui étaient réunis dans la salle à côté du consulat et il n'y avait pas de morts. Et côté consulat, et le cible, ça c'est le plus important, le cible n'était pas le consulat, le cible était les gens, les terroristes.
La précision est faite. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que va faire Israël dans les jours, dans les heures qui viennent ?
Bon, Israël va faire son calcul. On verra quand et comment Israël va réagir. Je crois que c'est très clair pour tout le monde. Et qu'une attaque pareille de 300 drones et missiles, missiles balistiques, missiles de croisière, et doit avoir une sorte de riposte. On ne peut pas rester sans réaction et sans réagir. Mais il y a un autre élément qui est important. Je crois que ce qu'on avait vu depuis hier, c'est vraiment une coalition forte qui soutient Israël. Mmh. Et là aussi, c'est une chose que nous devrons prendre en compte, bien sûr, qu'il y a ici une alliance importante.
Avec les Américains ?
Avec les Américains, mais pas seulement avec les Américains, avec d'autres pays aussi, y compris la France, y compris quelques pays de la région, qui ont bien compris, ils l'ont compris avant, il ne fallait pas attendre hier pour le comprendre, que l'Iran, c'est une menace, pas seulement contre Israël. Toute l'idée des accords d'Abraham...
Menace, oui. C'est une menace pour la région ou c'est une menace pour le monde ?
Je dirais même pour le monde.
De quelle façon ?
Tout d'abord, une menace, une vraie menace régionale, c'est aussi une menace pour le monde. Mais il faut bien comprendre l'idéologie de l'Iran, la nécessité d'exporter leur idéologie dans le monde entier, à commencer par des pays voisins, que ce soit des pays du Golfe ou que ce soit Israël. La destruction d'Israël, c'est une étape pour dominer ce monde avec leur idéologie. Une bombe atomique nucléaire, capacité nucléaire, en main de l'Iran, avec des missiles à longue distance, ce qu'on avait vu.
Beaucoup plus que 2000
kilomètres, ils peuvent arriver aux capitales européennes. Je crois que c'est quelque chose de très dangereux et c'est quelque chose que le monde ne peut pas tolérer.
Comment est-ce que vous percevez le Qatar ? On parle beaucoup des proxys de l'Iran, on parle du Hezbollah, on parle de différents... Le Qatar qui finance aussi. Comment est-ce que dans cette histoire, j'en parlais avec Qatar Abou Diab à l'instant, est-ce qu'il n'a pas un rôle ambigu ?
Oui, je crois que c'est le mot, c'est le rôle ambigu. Du Qatar.
Quelle est la position d'Israël vis-à-vis du Qatar ?
Cela dit, Qatar est maintenant très involucré et joue un rôle important dans les négociations entre Israël et le Hamas pour la libération des otages.
Donc on marche sur des œufs avec eux ?
Toujours. Mais ça, c'est le Moyen-Orient. C'est toujours le Moyen-Orient. Donc, oui, donc le Qatar joue un rôle important sur cette question-là, qui est vraiment une question importante pour Israël. C'est l'un des objectifs de cette guerre que nous menons aujourd'hui à Gaza. C'est la libération des 133 otages, dont 3 Français.
Merci beaucoup, Alona Fischer-Kam, d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci.
18h32, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité, avec Guillaume Lariche. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Après l'envoi de plus de 300 drones et missiles iraniens sur Israël, le G7 condamne unanimement cette attaque. Les 7 grandes puissances économiques mondiales appellent les parties à la retenue. Alors que la réponse d'Israël à l'attaque iranienne de la nuit dernière n'est pas encore connue, l'État hébreu a demandé la tenue ce dimanche d'un conseil extraordinaire de l'ONU. Dans l'hémisphère sud, au lendemain de l'attaque au couteau dans un centre commercial bondé de Sydney, rien ne suggère un éventuel motif terroriste pour la police australienne. Déjà connu de la justice, l'agresseur, 40 ans, était atteint d'une maladie mentale. Avant d'être abattu, l'assaillant a tué 6 personnes et en a blessé plusieurs autres. Des attaques au couteau qui se multiplient aussi en France, comme à Bordeaux, près du miroir d'eau mercredi dernier. Alors faut-il systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux ? Oui, répondent 59% des Français, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. En Ile-de-France, un homme de 18 ans interpellé jeudi dans le RER B avec une carabine non chargée à Villeparisis en Seine-et-Marne. Il sera jugé début mai pour détention d'armes non autorisées. Pour soutenir les hôpitaux et le système de santé, 1200 personnes ont manifesté ce dimanche à Guingamp. D'après la CGT, l'hôpital de Guingamp a vu sa maternité suspendue et celui de Lannion, ses urgences quasiment fermées. Les sports, le Stade Toulousain qualifié pour le dernier carré de la Champions Cup de rugby. Toulouse a gagné son billet en battant cet après-midi les Anglais d'Exeter 64-26. Le club du Sud-Ouest recevra en mai les Londoniens d'Harlequins. Enfin, en tennis, le Masters 1000 de Monte Carlo remporté par Tsitsipas pour la 3e fois de sa carrière. Le Grec s'est imposé contre le Norvégien Casper Ruud 6-1-6-4. La suite d'Europe 1 soir week-end avec Pierre de Villeneuve.
Merci mon cher Guillaume Lariche. 19h, d'autres informations avec vous. Et à l'instant, le G7 qui affirme son plein soutien à Israël après l'attaque de l'Iran. Cette attaque dont on reparle dans un instant dans le club politique d'Europe 1 soir. Et d'autres sujets également, 18h34. Merci de rester avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Thomas Hill et Jean-Pierre Foucault.
Merci Jean-Pierre, c'est vraiment un honneur que vous ayez accepté de me remplacer la semaine prochaine dans Culture Média.
Enfin, j'ai quand même un peu la pression. Hein.
Non, mais il faut être vous-même, avec votre style, votre patte.
D'ailleurs, je me suis dit que je pourrais peut-être rebaptiser l'émission Sacrée Matinée, non?
Oui, je crois qu'on va quand même rester sur Culture Média, ça explique bien le principe.
Ou alors, peut-être mettre un petit peu plus de suspense dans les interviews. Thomas, est-ce que c'est votre dernier mot?
C'est peut-être un peu trop, Jean-Pierre.
Jean-Pierre Foucault, animateur de Culture Média, c'est demain, de 9h30 à 11h sur Europe 1.
Aujourd'hui, 3 millions de Français se privent de produits d'hygiène essentiels, faute de moyens. Pourtant, se sentir propre, c'est aussi vital que de se nourrir. Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Lucas, fraîchement préparé, va confiant à son entretien d'embauche. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,98€.
Les oranges à jus ?
Très oui. Dès demain, le filet d'oranges à jus de 3 kilos est à 2,98€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Très oui, ça revient à 99 centimes le kilo.
Gros pépin pour nous.
Oula, très gros.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, variété Salustiana ou Navellina selon arrivage, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Quand vous avez un brique-glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve.
18h36 sur Europe 1 et après avoir reçu l'ambassadrice d'Israël en France, Alona Fischer-Kam, place au club politique d'Europe 1 Soir. Bonsoir William Thème.
Bonsoir Pierre.
Fondateur du think tank Le Millénaire. Bonsoir Frédéric Dabi.
Bonsoir Pierre.
Qui est donc le directeur général de l'opinion à l'IFOP. On va continuer un peu sur ce sujet parce que je reprenais le tweet de... On dit le X, mais enfin, oui. Comment vous voulez dire le X ? Le tweet d'Emmanuel Macron ce matin qui semblait inquiet. Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien, l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, nos partenaires, la stabilité régionale. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue. Alors, si vous prenez un stabilobus, enfin, ou un crayon rouge comme j'ai à l'instant, regardez. Déstabiliser, stabilité régionale, désescalade et retenue. Il a peur, Emmanuel Macron ? Frédéric Dabi.
Non, il est dans son rôle. Je trouve que son communiqué est plutôt en adéquation avec déjà ce que nous disent les Français à travers de très nombreuses enquêtes. Vous vous rappelez de l'enquête d'il y a 3 semaines de l'IFOP pour Elnet qui a été publiée par le JDD, où quand on interroge les Français sur la principale menace islamiste pour le monde, l'Iran arrive très nettement en tête. Je fais aussi référence à l'enquête faite pour le CRIF qui a été publiée dans la Tribune la semaine dernière, où on voit que il y a la France des réseaux sociaux éruptive, minée par une obsession anti-israélienne, et il y a la France des sondages, de nos enquêtes représentatives, où tout le monde est interrogé à son poids, où la sympathie pour Israël reste fort, où Israël est vu comme un pays à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme islamiste, où l'objectif d'éradiquer le Hamas, donc un proxy, comme c'est le mot à la mode depuis quelques heures, que je connaissais sous un terme plus informatique qu'un terme plus diplomatique et politique. Et donc, une majorité de Français considère que l'objectif d'éliminer, d'éradiquer le Hamas est un objectif légitime. Donc, oui, il est inquiet. Et puis, disons les choses. Pour Israël, c'est la première fois depuis le 6 octobre 1973 qu'un pays attaque directement le sol israélien. Le 7 octobre, ce n'était pas un pays, c'était un mouvement terroriste. Donc c'est vrai que ce n'est pas anodin. Alors, On a bien expliqué, d'autres personnes beaucoup plus calées que moi, que c'était un baroud d'honneur, que c'était une riposte minimale pour ne pas perdre la face après ce qui s'est passé le 1er avril, mais ce n'est pas pour autant quelque chose d'anodin. Donc ça reflète bien, je trouve que les paroles présidentielles, je le dis très à titre citoyen, reflètent bien cette ambivalence entre inquiétude et bien sûr crainte d'une escalade.
Avec le G7 qui à l'instant en dit plus, qu'il est prêt à prendre des mesures face à d'autres initiatives de déstabilisation. C'est une épaisse urgente que je vous lis. William T.
Emmanuel Macron est dans ce rôle, il est un peu tâtonné depuis le 7 octobre parce qu'il est dans une position qui est difficile, parce qu'il doit à la fois soutenir Israël du fait qu'Israël a subi la plus grande menace depuis la Seconde Guerre mondiale et la plus grande tuerie de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, mais dans le même temps, il doit continuer à maintenir la politique traditionnelle de la France et la politique traditionnelle de la France du monde arabe. Et la politique traditionnelle de la France dans le monde arabe, c'est celle de dire non aux va-t-en-guerre, de dire non à ceux qui veulent régionaliser le conflit et de dire non à ceux qui veulent mondialiser le conflit. Or, moi, ce que je pense, c'est que le rôle d'Emmanuel Macron, c'est de dire non à Benjamin Netanyahou comme Dominique de Villepin a dit non à George W. Bush. Parce que depuis le 7 octobre,
Villepin a dit non à Netanyahou aussi. Hein, il l'a encore redit plusieurs fois.
Là, je pense qu'il faut le dire aussi. Enfin, en tout cas, il faut que Macron le dise. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que deux entités qui veulent régionaliser le conflit, voire mondialiser le conflit. C'est Benjamin Netanyahou et c'est le Hamas. Or, le Hamas n'est plus en capacité de le faire. Et lorsque vous prenez tous les éléments depuis le 7 octobre, je pense, c'est mon avis, que les Américains ont envoyé leur porte-avions à proximité d'Israël pour éviter une guerre entre Benjamin Netanyahou et l'Iran. Et depuis le début, Benjamin Netanyahou essaie d'impliquer l'Iran dans le conflit. Mmh. Et quand vous regardez les déclarations du patron du Hezbollah, les déclarations des différents chefs et différents patrons de la zone et de la puissance régionale qui est l'Iran, je ne vois à aucun moment une volonté et de l'Iran et du Hezbollah de vouloir régionaliser le conflit et d'avoir un conflit direct avec Israël. Or, moi, ce que je pense, c'est que Benjamin Netanyahou est en opposition avec la politique de Barack Obama à l'époque, qui avait mis un accord avec l'Iran, et donc en opposition avec la politique de Biden, et il aimerait bien que Trump revienne au pouvoir, parce qu'il pense que la principale menace pour la sécurité de la zone d'Israël, c'est pas Gaza, c'est pas le Hamas, il pense que c'est l'Iran, et que du coup, il faut déclarer la guerre à l'Iran, et donc il va profiter de ce point-là pour essayer de conduire à une escalade. Parce qu'ici, on est très précis dans les termes, quand on regarde les événements, vraisemblablement, l'Iran a prévenu d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, les États-Unis
72 heures avant
qu'ils allaient attaquer dans le journal, pour faire en sorte que la riposte soit une riposte d'affichage, mais que ce soit pas une riposte qui conduise à des morts et donc qui conduise à une escalade et donc à une régionalisation du conflit.
Alors, précision juste, ce sont deux porte-avions qui sont au large d'Israël et ce ne sont pas que deux porte-avions, pour que nos auditeurs comprennent, ce sont deux escadres, c'est-à-dire qu'un porte-avions est toujours en soutien avec une ou plusieurs frégates et un sous-marin nucléaire, évidemment.
Oui, lorsqu'on interroge les Français, jamais la crainte d'une guerre mondiale n'a été aussi forte. Avec ce qui se passe en Ukraine avec la Russie et au prochain, donc on est vraiment dans un moment absolument tragique, dans un contexte en plus où, par rapport il y a une dizaine d'années, les Français s'intéressent aux questions internationales. Époque où l'international était un pays lointain, qui n'intéressait que les personnes âgées, les diplômés, les personnes très au fait de ces questions, est absolument révolu parce que il y a une logique d'opinion, j'ai envie de dire, intérieure qui se met en place, c'est que ce qui se passe à l'international, finalement, peut avoir des conséquences très rapides sur nos vies. Alors, vous citiez tout à l'heure, William, Barack Obama. Est-ce que c'est une référence ? Est-ce qu'il ne faut pas rappeler son aveuglement sur la Syrie ? Quand, en 2013, François Hollande et la Grande-Bretagne l'incitaient à intervenir en Syrie, entre parenthèses, les Français n'avaient pas du tout suivi François Hollande, comme ils n'ont pas du tout suivi Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes possibles en Ukraine. Si François Hollande avait été entendu, si Barack Obama s'était bougé, si je puis dire, n'aurait-on pas peut-être décimé Daesh dès le début et évité ce qui s'est passé en novembre dans notre pays en 2015. Alors, je ne vais pas faire une uchronie, mais est-ce que c'est une référence, Barack Obama ? Je partage complètement ce que vous dites sur les intérêts peut-être de Netanyahou, mais la différence, c'est que Netanyahou est contesté dans son propre pays aux prochaines élections, sans faire de pronostic. Il joue extrêmement gros, notamment, et ça a été, vous avez interrogé Pierre, l'ambassadrice, là-dessus, et ça a été dit dans vos émissions précédentes, sur les failles terrible de la sécurité israélienne le 7 octobre et d'avoir laissé un peu, à l'instar de ce qui s'est passé, de la mauvaise surprise de la guerre du Kippour, ces hordes de terroristes avancer en Israël. Donc Benjamin Netanyahou le met au même niveau que l'Iran, c'est compliqué car on est face d'un côté entre une démocratie et une théocratie. Et puis le Hezbollah, oui, il ne veut pas régionaliser le conflit, mais je crois que c'est quasiment tous les jours. Il envoie des missiles, des bombes, des roquettes sur le nord d'Israël. Et oui, je crois
qu'il y a la routine, on se disait,
mais il y a entre 300 000 et 400 000 personnes
avec l'ambassadrice,
qui ne peuvent pas habiter chez eux. Donc c'est vrai que c'est une question que je trouve assez, assez compliquée. En tout cas, bien sûr, il faut espérer une absence d'escalade.
Mais moi, c'est pour ça que je vise Benjamin Netanyahou, parce que je différencie Israël de Benjamin Netanyahou. Il ne s'agit pas de mettre la République islamique d'Iran, dont on espère que le régime des Mollahs tombe, il ne tombera pas comme ça, avec un régime démocratique et la seule démocratie est notre seul allié dans la zone, enfin, seul allié fort. Parce que quand vous regardez la situation depuis le 7 octobre, Benjamin Netanyahou avait promis notamment d'avoir trois objectifs de guerre. Éviter la régionalisation du conflit en protégeant Israël, donc éviter la multiplication des fronts, la libération des otages et la destruction du Hamas. Ça fait six mois qu'il n'arrive pas à détruire le Hamas. Imaginons qu'on parte en conflit avec l'Iran. Si par cas les États-Unis d'Amérique étaient la plus grande puissance militaire de l'histoire du monde, n'ont pas réussi à battre l'Afghanistan et l'Irak, vous pensez vraiment qu'on puisse battre l'Iran? C'est impossible. On ne battra pas l'Iran. Simplement parce que la géographie est spécifique et parce que l'armée iranienne n'est pas du tout la même que l'armée de l'Afghanistan.
Et
l'armée
de l'Iran. Armageddon. C'est le même cas qu'avec la Russie. Si on commence à tirer, les autres tirent et c'est la fin du monde.
Et puis, vraisemblablement, il y a la Russie et la Chine qui rentrent en jeu. Le deuxième point, c'est que Benjamin Netanyahou, l'ensemble des dirigeants occidentaux lui ont prévenu sur les lignes rouges, lui ont dit ce qui allait se passer si par cas il intervenait de manière non ciblée et non proportionnée à Gaza. Donc sur un ensemble de points, Benjamin Netanyahou ne joue pas la sécurité d'Israël, ne joue pas en fait la destruction du Hamas, mais joue uniquement sa survie politique, parce qu'il sait que vraisemblablement, comme l'ancienne première ministre lors du Kippour, il perdra son poste à l'issue de la fin de la guerre. Il essaie de faire en sorte de répondre à une certaine crispation de l'opinion publique israélienne, de besoin de sécurité et de radicaliser le conflit pour pouvoir sauver son poste dans un objectif d'intérêt personnel. Parce que s'il veut assurer la sécurité d'Israël, il n'a aucun intérêt de bombarder et d'attaquer le consulat d'Iran à Damas. Il n'a aucun intérêt de régionaliser le conflit et d'attaquer le Liban. Donc c'est un ensemble de stratégies qui fait en sorte, je pense, qui conduit Israël dans le mur. Et il y a quand même un point qui est quand même très important. Si par cas, l'objectif réel de Benjamin Netanyahou, c'était de libérer les otages, je ne connais pas un seul expert militaire qui dira qu'il faut bombarder Gaza pendant 4 semaines et d'envoyer des troupes dans l'endroit le plus densément peuplé pour pouvoir libérer les otages. Donc je pense que sa stratégie va dans le mur. Je pense que pour Israël et pour l'avenir de la zone, il doit être remplacé.
En tout cas, la France apporte son soutien à Israël. Ça a été redit encore. Alors, dans le JDD ce matin, Monsieur Larcher, le président du Sénat, qui arrive. Le JDD nous habitue aux nouveaux candidats pour 2027. Il y a eu Bruno Le Maire au moment de la sortie de son livre, même si Bruno Le Maire disait que c'était pas du tout une sortie, c'était pas un livre programme. Quand on pose la question, et là en l'occurrence c'est mes confrères Jules Torres et Antonin André, de savoir s'il y va ou s'il y veut pas, je rappelle que la cinquième rêve, est-ce qu'il faut que j'aille plus loin? Nous verrons, trois petits points.
Bon, oui.
Ça veut dire qu'il ouvre quand même la porte, Gérard Larcher.
Il a raison. Il a raison de le faire. C'est le deuxième, troisième personnage de l'État. Ça dépend des comptes.
Il a 74 ans.
Il a une popularité importante. Il n'a pas perdu une élection depuis très, 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 très longtemps. Il est bien perçu et à droite, et il bénéficie d'une bienveillance à gauche et du côté des sympathisants de la majorité présidentielle. Et puis, c'est vrai qu'il est dans la période la plus récente, même s'il a peut-être fait une erreur au moment de la constitutionnalisation de l'IVG, il a été jugé un peu ringard, y compris à droite. Mais en dehors de ça, il a plutôt été une borne.
Il a voté contre, voilà.
Mais il a le droit de le faire. Mais c'est vrai qu'il a été plutôt mis en minorité.
Il a voté contre, et d'ailleurs, quand il y a eu les images ensuite de la grande signature, il était un peu crispé, c'est normal, parce qu'il avait voté contre.
Bien sûr. Mais il a été
quand même
souvent
obligé de faire.
Dans cette ère Macron, une sorte de borne, comme Louis-Philippe appelait Guizot. Il disait que Guizot, c'est une borne pour les sympathisants de droite, pour ceux du centre. Quelqu'un qui a mis en valeur, et c'est dans l'interview d'Antonin André de Jules Torres, les territoires, qui a rappelé l'importance de sauvegarder, de diminuer notre dette, qui n'a pas eu peur de parler d'insécurité, d'ensauvagement de la société. Et c'est vrai que 2027, c'est extrêmement loin, il y a ce bloc central où il y a eu peut-être du trop-plein que du vide en termes de candidat. Il n'a pas dit, bien sûr, qu'il était fait candidat, mais il a tenu un discours, je trouve, de Cassandre, de raison sur l'état du pays, qui s'inscrit plutôt en adéquation avec ce que nous disent les Français. Quand je prends nos dernières enquêtes, IFOP fiduciale pour match, où le président et le Premier ministre sont en difficulté, la question de la dette qui a sonné une forme de crédibilité innée ou acquise pour le macronisme, la question de l'insécurité, le lien entre l'insécurité et l'école, Montpellier, Viry-Châtillon, Bordeaux, le proviseur du 20e arrondissement, tout ça, c'est toute une série d'éléments qui ont été mis en avant par Gérard Larcher, qui, je dirais, résonnent dans le discours et qui résonnent en adéquation avec ce que nous disent les Français. Donc, il prend date. Alors. Voilà.
Il prend date. Après, c'est pas une interview molle. Hein. Il est extrêmement, j'allais dire, véhément sur l'histoire du déficit.
Oui.
Vous l'avez rappelé.
Sur les mineurs délinquants.
Sur les mineurs. Alors, sur les mineurs délinquants, c'est très intéressant. Alors, il propose ce que d'autres proposent, c'est-à-dire des centres éducatifs fermés ou spécialisés. Mais il dit une chose. Il dit on a commis une erreur majeure, c'est de retirer au maire la possibilité d'agir sur la mixité sociale. Il dit que le prochain texte sur le logement doit impérativement dire que le maire doit avoir ce pouvoir et non pas l'État, puisqu'aujourd'hui c'est la préfecture qui gère l'essentiel des attributions des logements sociaux via un algorithme. Mais en fait, il explique qu'à l'époque, le maire le faisait et que dans ce qu'on appelle les quartiers, il y avait des gens très très différents et c'est ça qui faisait la mixité sociale. Qu'aujourd'hui, on a créé des ghettos parce qu'il y a une préférence pour les gens issus de l'immigration et du coup, ils s'empilent et ils apportent en fait, au lieu de s'assimiler comme autrefois, ils apportent en fait une nouvelle culture à ces quartiers qui à l'époque n'existaient pas, William Tay.
Oui, c'est ce que dit Christophe Guillou dans Le Temps des gens ordinaires, parce que...
Oui, mais là, c'est le président du Sénat, oui. Donc oui. Ça a quand même une autre portée. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Le point sur la question de l'assimilation, c'est qu'en fait, à chaque fois, depuis, allez, on va dire avant Sarkozy, depuis que le Front National est rentré dans le jeu politique, les politiques ont interprété la question de migration sur uniquement la question de l'accueil et du flux. Or, on a oublié une dimension essentielle de la politique migratoire, c'est la question de l'assimilation, notamment au principe de la République et à la culture française.
On a jusqu'à présent parlé d'intégration.
On a parlé uniquement d'intégration. Mais on n'a pas imaginé...
Ou de créolisation.
On n'a pas imaginé l'intégration, l'assimilisation sur différents volets. On a imaginé uniquement l'intégration d'un point de vue économique. C'est-à-dire que lorsque vous venez, et ben vous venez sur une question de regroupement familial, soit vous les questions de migration économique. Or, il y a plusieurs questions qui ont posé problème et qui ont créé finalement... on va dire un choc de civilisation sur le plan intérieur français, c'est qu'en fait, des personnes qui sont regroupées, notamment en provenance de beaucoup de pays, parce que lorsque vous regardez les flux migratoires, il y a une provenance très marquée des pays d'Afrique subsaharienne et des pays du Maghreb, qui, c'est à peu près humain, vont des personnes de la même communauté, au final font communauté ensemble, et on se retrouve dans ce qu'avait dit Gérard Collomb lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ça veut dire
juste.
Aujourd'hui nous vivons côte à côte, et finalement aujourd'hui nous vivons face à face, parce que finalement les problèmes que nous rencontrons, quand nous avons évoqué au Moyen-Orient, peuvent se retrouver, et on peut importer des conflits qu'on a revus dans différentes régions du monde. Et la difficulté qu'on a maintenant, c'est que comme le nombre est trop important, c'est très compliqué de pouvoir parler et de créer de la mixité sociale, parce que vous avez une loi SRU qui vous oblige à mettre des logements sociaux à 25%, et pour des raisons foncières et pour des raisons de politique de la ville et pour des questions d'attribution de permis de construire, vous les mettez à peu près au même endroit.
Et comme il y a algorithme, plus vous avez d'enfants, plus vous avez de chances d'avoir un logement social.
Et donc du coup, vous arrivez sur à peu près les mêmes endroits. La question essentielle, c'est est-ce qu'on est prêt à tourner le dos à ce qu'on appelle à la politique McDonald's, qui est venez comme vous êtes. Et ce qu'il faut prendre en compte, aujourd'hui, une politique soit beaucoup plus dure en termes d'accueil des flux migratoires et des termes d'exigence, c'est-à-dire de faire un peu comme ce que font les États-Unis ou ce que font le Royaume-Uni, avoir non pas zéro migration, mais d'avoir une politique très claire sur qui on veut sur notre territoire et qui on ne veut pas, qui est en capacité de s'assimiler et qui n'est pas en capacité de s'assimiler, et dire que voici nos conditions, si vous voulez venir sur le territoire français, il faut remplir certaines conditions d'un point de vue économique, d'un point de vue civilisation et d'un point de vue culturel.
Alors, Frédéric Dabi. Dans l'interview, Gérard Larcher ne dit pas tout à fait ça, mais c'est cet esprit d'assimilation. Ce que je trouve très intéressant, si on fait un petit pas de côté, c'est la continuité des idées et de, je dirais, du corpus idéologique du président du Sénat. En mettre en avant systématiquement les territoires et les maires. Les maires, n'oublions pas, le maire, c'est l'élu de confiance. C'est le seul élu qui a un crédit de confiance majoritaire auprès des Français. C'était le congrès IFOP pour les CCAS au Havre il y a maintenant une quinzaine de jours. C'est le seul élu qui a encore la capacité de changer la vie, qui montre aux Français dans leur vie quotidienne qu'il parvient peut-être pas à réenchanter les choses, mais à peser sur le cours des choses et transformer le quotidien de leurs concitoyens. Et donc, Gérard Larcher est sur une logique territoriale et sur une logique où sont les maires qui pourraient être les hussards noirs, les nouveaux hussards de la République. Et là, il est en totale contradiction avec ce qui est fait depuis le début du quinquennat, où très très clairement, même s'il y a eu des hauts, quelques hauts, mais beaucoup de bas, on sent que les élus locaux ont été un peu brimés, ont été un peu mis sous tutelle et gênés par la politique nationale. Maintenant, Gérard Larcher, avec cette implantation, avec le fait de jouer la proximité les acteurs de confiance. Ben voilà, si je me projette sur 2027, il est dans un couloir assez différent comparé à Edouard Philippe, comparé à Gérald Darmanin, comparé à ceux qui sont à l'intérieur, Bruno Le Maire et Gabriel Attal.
Il est aussi, Frédéric, sur une anti-verticalité.
Oui,
c'est-à-dire qu'il, il siphonne complètement le côté jupitérien du président.
Il ne sera pas Jupiter, s'il
et au début de, certainement pas, et au début de l'interview, il commence en disant, en parlant du rôle du Parlement. Parce évidemment, il est bien placé pour le savoir, que, encore une fois, peut-être sur le budget là, qui arrive, le gouvernement va finalement passer par voie dérogatoire et non pas en faisant passer le budget par le Parlement. Donc en fait, il est en colère contre le fait que le Parlement est mis de côté, il est en colère contre le fait que les maires soient là, il protège les élus.
Oui. Et ça, il est favorable ça, au rétablissement du cumul des mandats.
William T.
Le Gérald Larcher est paradoxal dans son positionnement parce que il incarne tout ce qui pourrait être à l'opposé du macronisme. C'est-à-dire qu'il pourrait incarner en fait la révolte des Gilets jaunes et la révolte des agriculteurs face au président de la République. La difficulté, quand on lit son interview, c'est que son positionnement politique est finalement plus proche d'un bloc central, comme le dirait Frédéric Dabi, que d'un bloc révolte anti-macroniste, qui pourrait être incarné par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Lorsque vous prenez les différents totems qu'il évoque, finalement, il est sur une ligne plutôt traditionnelle, UMP classique, qui est proche, certes, différente en termes de méthode avec le président de la République, mais qui n'impose pas une rupture de fond avec la politique menée par Emmanuel Macron. Or, j'ai l'impression que ce que montrent plutôt les sondages d'opinion et les enquêtes d'opinion, c'est que les Français veulent, en fait, finalement, un pouvoir fort pour répondre à l'impuissance publique générée par le président de la République, qui avait promis un certain nombre de points en 2017, notamment porté par son livre Révolution, en termes de lutter contre les mobilités géographiques, et que finalement, il n'a pas réussi à combattre les mauvais Français et à pas faire en sorte que la France reste toujours l'homme malade de l'Europe en termes de chômage. Il faut quand même rappeler que la France est le troisième taux de chômage de la zone euro. Il faut rappeler que la France a finalement la dette la plus élevée en termes de valeur nominale, qu'en termes de dette par rapport au PIB, on fait partie des trois cancres de l'Union européenne, que sur le déficit public, c'est pas mieux, et que finalement, sur un ensemble de points sur lesquels Emmanuel Macron devait répondre à tous ces problèmes-là en disant qu'il allait porter un nouveau monde, il n'a pas réussi à porter une réforme profonde des mutations et de l'incarnation publique. Je ne sais pas si les Français veulent moins de verticalité, je pense qu'ils veulent plus de résultats et plus d'efficacité.
Alors, je suis d'accord sur la logique de résultats et d'efficacité. L'interview, vous l'avez dit, Pierre, est quand même dure, et se place dans une opposition résolue. Il ouvre la porte, non pas une motion de censure, mais il explique que oui.
Il dit que ça serait l'heure de vérité.
Ça serait l'heure de vérité.
Ça, c'est une façon aimable de dire bah oui, c'est souhaitable.
Renverser le gouvernement, c'est arrivé une fois. Hein. C'est Georges Pompidou en 1962. Maintenant, William, il ne peut pas dire allons sur la ligne Bardella-Le Pen. Il est gaulliste, il est RPR, LR, UMPLR. Il ne peut pas aller sur une ligne Bardella-Le Pen. D'ailleurs, je trouve que
vous
c'est
avez failli dire UMPS, mais non.
Oui, mais non, je ne vais pas dire ça parce que il y a des vraies différences. Il y a quand même, quand on interroge sur le succès de Bardella et de Marine Le Pen, c'est vrai que là, il est sur un discours plus traditionnel. Il est dans une opposition très forte aussi également à l'égard du Rassemblement National et il le voit comme un vote de colère et comme un vote réceptacle, justement, de ce sentiment de déclin, d'impuissance et d'absence de résultats et d'efficacité. C'est un discours assez classique. Ce qui change là, ce qui change avec ces élections européennes où on passe très vite sur le fait que dans les enquêtes, notamment le Rolling Ifop fiducial, la liste Bardella dépasse les 31-32%. Ce n'est jamais arrivé pour un parti unique dans l'histoire des élections européennes, sauf la liste Simone Veil en 84, mais c'était RPR, UDF. Et de plus en plus, le vote RN se construit sur de l'adhésion plus que sur la protestation.
En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que là, vous avez parlé, William, de l'UMP. Vous avez dit qu'il avait vraiment un visage et un discours UMPiste, si j'ose dire, Gérard Larcher. Il y a une sorte de retour au parti de gouvernement conventionnel, l'UMP peut-être d'un côté avec cette sortie de Gérard Larcher. Et puis, il y en a un aussi de l'autre côté qui revient sans cesse, c'est François Hollande. Il se montre dans tous les plateaux de télévision, il vient à la radio, il commente. Et c'est cette petite musique qui monte. Alors, si on prend le livre de Laurent Binet, qui souvenez-vous, s'appelait « Rien ne se passe comme prévu », et c'est vrai que rien ne s'est passé comme prévu dans l'élection de François Hollande en 2012, peut-être qu'il pourrait refaire ça. En tout cas, là, dans une dernière dépêche que j'ai lue sur François Hollande, qui était aujourd'hui interviewé par des confrères. Il était tout miel avec Raphaël Glucksmann, qui, on le sait, dans les sondages, est à 12 ou 13%, 12,5% dans les européennes. C'est assez amusant, parce qu'en fait, à force de flatter le corbeau, le fromage tombe, Frédéric Dabi.
Oui, c'est clair que François Hollande, alors sa popularité est très très élevée, on peut dire que c'est une popularité de papier, une popularité d'estime pour un ancien président. Moi, ce qui me frappe, c'est que ça fait plusieurs mois qu'il est premier à gauche et qu'il surclasse Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que pour lui, ces élections européennes, seul scrutin national du quinquennat, vont être capitales, parce que si la liste Glucksmann arrive en tête, ça crée un nouveau rapport de force qui pourrait lui profiter.
En 20 secondes, William.
Moi, je pense que la ligne politique menée par François Hollande a un espace, tout simplement parce que le macronisme s'est porté durablement comme une sorte d'UDF. À partir du moment où ils ont fait une réforme qui était très portée, c'était la réforme des retraites, qui l'ont inscrite durablement, finalement, sur un parti sociologique porté par les personnes qui sont très âgées, les CSP+, et on voit bien que sociologiquement, depuis qu'ils ont porté la réforme des retraites, ils se sont réduits à peu près au socle traditionnel porté par Valéry Giscard d'Estaing et donc l'UDF, ce qui libère un espace au centre et au centre-gauche.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'UMP avec Gérard Larcher et une sorte de SPD de retour du PS avec François Hollande. On verra comment ça se passe. Merci pour ce club politique, les amis.
Merci.
Merci Frédéric, merci William. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 avril, ça veut dire que demain nous sommes le 15 avril. Et souvenez-vous, le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûlait, la France entière et le monde assistait impuissant au drame. 5 ans après, Europe 1 se souvient, ce lundi 15 avril 2024, journée spéciale consacrée à Notre-Dame de Paris.